boutique mobile de Banque Atlantique. L'appli mobile totalement gratuite vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci de votre confiance. Dans 30 minutes, vos réactions, et elles sont nombreuses ce matin après la décision des autorités du Burkina Faso de mettre fin à l'accord qui permet aux soldats français d'être présents dans le pays. Les 400 éléments des forces spéciales engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ont un mois pour quitter le Burkina Faso. C'est donc la fin de la coopération militaire. On en parle ce matin. Vos réactions, vos analyses au standard 33 9 600 693 693 70 et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Comme tous les matins, bien évidemment, je lirai quelques-uns des commentaires postés. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information, vous souhaitez mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différentes éditions, et bien vous nous appelez et on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre en direct, et on se fait un plaisir évidemment de dialoguer notamment avec Guy Cédric. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
À Abidjan, soyez le bienvenu. Vous souhaitez, Guy Cédric, revenir sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali pendant près de 6 mois. Et vous avez des questions après les informations révélées la semaine dernière par RFI.
Effectivement. Parce qu'après la libération de ces 46 soldats, on a appris qu'ils étaient au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Sur invitation du contingent allemand. Bon, comment expliquer que la MINUSMA n'a jamais été claire sur le rôle de ses soldats et pourquoi l'Allemagne est-elle restée aussi silencieuse?
Ah oui, c'est bien dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali que ces soldats sont allés à Bamako à la demande du contingent allemand. Bonjour David Bachet.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service Afrique de RFI, sait-on pourquoi, David, la MINUSMA n'a jamais été très claire sur le rôle de ses soldats?
Eh bien, si les Nations Unies et si l'Allemagne également avaient accepté de répondre à mes questions, ce serait plus facile de vous répondre, Guy Cédric. Malheureusement, elles n'ont souhaité apporter aucune précision, ni avant, ni après la diffusion de nos révélations. Alors quand même, la première explication de ce que l'on peut supposer, eh bien, c'est que la MINUSMA et l'Allemagne ont voulu couvrir leurs propres dysfonctionnements, car ils sont nombreux et de taille. Par exemple, les Nations Unies prévoient bien le recours à des NSE, à des militaires qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs des casques bleus, mais qui viennent en soutien à la mission onusienne. Théoriquement, l'ONU en prévoit 50 par contingent, par pays contributeur de troupes. Là, eh bien, on apprend que l'Allemagne en avait plus de 470. Les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés, les 40 mais aussi leurs prédécesseurs, puisqu'on en était à la 8e rotation depuis 2019. Ils étaient affectés à un site à l'aéroport de Bamako, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui l'a expliqué, mais de source onusienne, ce site ne servait pas seulement aux activités de la MINUSMA. Je rappelle que l'Allemagne était également engagée dans Takuba, par exemple. Bref, ce site, cet entrepôt, comme il est parfois présenté, ne relevait pas de la MINUSMA elle-même. Donc, y affecter des NSE, ça non plus, n'était pas régulier. Sans parler du fait que les avions qui ont transporté les 40 avait officiellement été présenté aux autorités maliennes comme devant servir au transport de troupes du contingent allemand, ce qui n'était pas le cas. Bref, je ne vous refais pas la liste ici là, des informations que nous avons publiées, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements qui vont au-delà du strict administratif. Il n'y avait pas de complot contre le gouvernement malien, mais les procédures, les règlements onusiens ont été largement foulés aux pieds. Et on peut donc imaginer que la MINUSMA et l'Allemagne ont souhaité se passer de cette mauvaise publicité, d'où ce silence et cette absence de reconnaissance de leurs propres manquements.
Oui, David, il y a aussi des éléments, on va dire, plus flous et peut-être plus graves encore.
C'est vrai parce qu'il y a aussi parmi les points d'interrogation qui demeurent, eh bien, il y a ce fameux contrat passé en 2019 entre la Côte d'Ivoire et la société privée Sahel Aviation Service. Sahel Aviation Service, ils ont passé un contrat qui était lié au site en question, donc à l'aéroport, géré par l'Allemagne et par la société SAS. Ce contrat, ni Abidjan ni SAS n'en ont révélé les termes. Abidjan parle de logistique et de sécurité, rien de plus. Un article du journal français Le Monde, qui a été publié la semaine dernière, évoque en plus des missions liées à la MINUSMA, des activités de gardiennage privé au profit de Karim Keïta et d'Ahmed Bakayoko, le fils de l'ancien président malien Ibeka et le défunt premier ministre ivoirien, pour faire sortir frauduleusement de l'or du Mali. Le Monde cite des sources maliennes et ivoiriennes anonymes. Alors je précise tout de suite que j'ai entendu aussi parler assez récemment seulement d'ailleurs de telles rumeurs, de commissions qu'auraient pu toucher par le passé Karim Keïta et Ahmed Bakayoko, mais à mon niveau, je n'ai pas été en mesure de recouper quoi que ce soit. C'est important de le préciser, parce que ce dossier suscite de nombreux fantasmes et aussi des tentatives de récupération politique. Donc, à ce stade, à RFI, on préfère rester prudent. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans nos journaux jusqu'ici. Le Monde a sans doute eu accès à des éléments plus solides pour publier cet article. Ça pourrait, en tout cas, expliquer le silence de l'Allemagne, des Nations Unies et aussi celui de la Côte d'Ivoire.
Oui, mais ça n'explique pas le silence du Mali.
Non, effectivement, Juan, c'est vrai qu'on voit mal pourquoi les autorités maliennes de transition se seraient passées d'ébruiter un tel secret, à part peut-être de faire passer ce qui serait, si c'était confirmé, un scandale politico-financier, d'en faire une tentative de déstabilisation du pays. Mais ce scandale aurait sans doute déjà suffi à justifier la défense de la souveraineté du Mali, l'arrestation des soldats ivoiriens. Je précise également qu'à aucun moment, tout au long de ces 6 mois de tractations politiques en coulisses entre le Mali et la Côte d'Ivoire, sous l'égide de plusieurs médiations, et notamment celle du Togo, à aucun moment, donc, durant ces 6 mois, la question de ce contrat et des agissements éventuels de Karim Keïta ou d'Ahmed Bakayoko n'a été mentionnée comme faisant partie des négociations, ni officiellement, ni dans les échanges hors micro que j'ai pu avoir avec certains acteurs.
Une dernière question rapidement, Guy Cédric.
L'Allemagne a-t-elle joué un rôle dans la libération des 46 soldats ivoiriens?
David Baché, avez-vous un élément de réponse?
Sur le rôle de l'Allemagne et son silence pendant ces 6 mois, et sur le rôle dans leur libération.
Voilà. Est-ce que l'Allemagne a contribué à la libération des 46 soldats?
Alors, à ma connaissance, aucun. L'Allemagne n'était pas partie prenante des discussions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et si elle s'est impliquée d'une manière ou d'une autre, eh bien son action est demeurée parfaitement secrète.
Guy Cédric, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, très satisfait. Merci, Juan.
Un grand merci sur toi, David Baché, journaliste au service Afrique de RFI qui a mené cette enquête. Bonne journée à tous les deux. 9h17 ici à Paris, on va parler du Sénégal et de cette affaire qui fait défrayer la chronique, qui ferait couler beaucoup d'encre, c'est ça que je voulais dire. Ibrahima, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
À Tambacounda, au Sénégal, sur l'affaire Ousmane Sonko.
Oui Juan. En fait, l'affaire entre Ousmane Sonko et Hadji Sarr a été renvoyée par la justice devant la chambre criminelle. Et l'avocat d'Hadji Sarr réclame la diffusion en direct du procès. Pourquoi? Et cela pourrait-il être possible?
Alors, Hadji Sarr étant, rappelons-le, cet ancien employé d'un salon de massage de Dakar qui accuse l'opposant Ousmane Sonko de viols répétés et de menaces de mort. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. Alors effectivement, dès l'annonce du renvoi de l'affaire devant la chambre criminelle, l'un des avocats d'Hadji Sarr a réclamé la retransmission en direct à la télévision du procès. Sait-on pour quelle raison?
Oui, et sur toutes les télévisions du Sénégal, dit-il. Alors, il explique que c'est parce que tout le Sénégal a été impliqué, hein, je cite, que cette affaire a été très médiatisée depuis près de 2 ans, avec, selon Maître El Hadj Diouf, de fausses informations, des pressions, des manipulations, et donc une retransmission à la télé permettrait, selon lui, à tous les Sénégalais d'entendre les arguments des deux parties. Est-ce que c'est possible? En principe, non. Il est interdit d'enregistrer, de filmer et de diffuser des débats d'audience. Par exemple, ici à Dakar, au palais de justice, quand on va, les journalistes, nous, à l'intérieur du palais, il faut laisser les caméras et les enregistreurs à l'extérieur. Il y a plusieurs arguments pour justifier cette interdiction. Par exemple, les droits de la personne mise en cause, donc sa vie privée, sa dignité, ou encore la sérénité des débats. Donc, en principe, ce n'est pas possible. Il y a tout de même eu, on peut le rappeler, un précédent au Sénégal. C'était lors du procès d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien, devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Donc ça avait été retransmis au Sénégal et au Tchad. C'était une demande des parties civiles, notamment pour que le procès puisse être suivi par les populations tchadiennes. J'ajoute qu'à l'inverse, le juge peut aussi ordonner un procès à huis clos, donc sans présence du public dans la salle d'audience. Et cela, si le juge estime que la publicité est dangereuse pour l'ordre public, si cela peut perturber les débats dans la salle ou si il y a un danger pour les bonnes mœurs.
Reste avec nous, Charlotte Hydrac. Ibrahima, une dernière question à vous poser.
Oui, toujours dans cette affaire-là, Ousmane Sonko a affirmé que son renvoi devant un tribunal ne l'empêchera pas d'être candidat. Et je voudrais savoir que dit la loi sur ça.
Ah oui, il a été clair. Hein. Personne ne m'empêchera d'être candidat en 2024, a-t-il déclaré. Que peut-on répondre, Charlotte Hydrac ?
Bon, à ce stade, le fait que l'affaire soit renvoyée devant un tribunal ne l'empêche pas d'être candidat. Il y a la présomption d'innocence. Ce qui l'empêcherait d'être candidat selon la loi, c'est une éventuelle condamnation définitive, donc qui lui ferait perdre ses droits civiques et politiques. On n'en est pas là, évidemment, même si Ousmane Sonko avait lui-même réclamé la tenue d'un procès, eh bien, il affirme qu'il ne fait pas confiance à la justice, que les magistrats en charge du dossier, selon lui, sont instrumentalisés et ses partisans font régulièrement référence à des cas précédents, hein, ceux de Karim Ouad, le fils de l'ancien président, et de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, puisque le Conseil constitutionnel avait justement recalé leur candidature pour la présidentielle de 2019 en se fondant précisément sur leur condamnation judiciaire.
Ouais, précisons tout de même qu'aucune date n'a encore été fixée, mais l'annonce du renvoi en procès fait déjà craindre des tensions sur place.
Oui, alors dimanche soir, Ousmane Sonko a réaffirmé qu'il allait user de son droit à la résistance, je cite, c'était lors d'un grand meeting à Kermassar devant une foule de militants, il les a appelés à se tenir prêts pour se battre, il affirme que ce sera œil pour œil, dent pour dent, et cette situation, oui, suscite des inquiétudes au sein de la société civile. L'organisation AfricaJum, notamment du défenseur des droits de l'homme Alioune Tine, met en garde face à des risques d'affrontement. Il lance un appel solennel au président Macky Sall et à l'opposition pour entamer un dialogue.
Et vous qui nous écoutez au Sénégal, si vous souhaitez réagir à cette annonce du renvoi de l'affaire devant la chambre criminelle, ses conséquences, ses répercussions, profitez-en vendredi. La Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix. Ibrahima, à Tambacounda, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, merci beaucoup.
Un grand merci à Charlotte Hydrac, correspondante permanente des RFI à Dakar, où il est 8h23. Antoine Grenier du service des sports de RFI s'installe dans ce studio. On lui a demandé de nous rejoindre, car on a reçu des questions sur les déboires de la Juventus. Blaise, bonjour.
Bonjour Juan, et bienvenue à Boisfleur en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, eh bien on est ravis de votre appel. On vous écoute, quelles sont vos questions ? Vous en avez plusieurs.
Oui. Alors, la Juventus a été lourdement sanctionnée par la Fédération italienne de football en raison de fraude lors de transfert de joueurs. Alors, à cet effet, j'ai deux questions.
Oui.
La Juventus avait été initialement acquittée. Alors, qu'est-ce qui est concrètement reproché à la Juve ?
Oui, la Juventus qui a écopé de 15 points de pénalité en championnat. Le club recule de la 3e à la 10e ou 11e place. Je parle sous votre contrôle.
10e place.
10e place. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service des sports de RFI. Que reproche la justice sportive italienne à la Juventus ?
Une mécanique comptable, en fait, d'avoir tripatouillé un petit peu les comptes en s'appuyant sur les transferts de joueurs pour ça. En gros, il faut rappeler que la Juventus est un club qui est lourdement déficitaire et ce, depuis de longues années. 700 millions de pertes à peu près sur les 9 dernières saisons, c'est colossal. Et bah pour masquer les déficits, plutôt que d'avoir une gestion de bon père de famille, les dirigeants de la Juve, ils ont eu une idée, c'est réaliser des transferts de joueurs qui étaient bien réels, mais avec des plus-values artificielle, c'est-à-dire que la justice italienne, elle s'est notamment penchée sur le transfert du bosnien Miralem Pjanic, qui est parti de la Juventus en 2020 pour aller au FC Barcelone, dans une sorte de transfert croisé avec un joueur du FC Barcelone, le Brésilien Arthur, qui est venu à la Juve. Et Pjanic, il est arrivé au Barça pour environ 60 millions d'euros, donc payé par le Barça à la Juventus de Turin, ce qui était largement surévalué par rapport à son âge, par rapport à ses performances, à Miralem Pjanic. Et l'astuce, en fait, elle est là dans cet échange avec Arthur, c'est-à-dire que dans un transfert, et ça, ça se fait beaucoup, c'est normal, les sommes qui représentent quand même plusieurs millions, ne sont pas payés immédiatement. Quand on dit 60 millions, c'est étalé sur plusieurs saisons. Sauf que ce qu'a fait la Juve, c'est qu'en gros, elle a inscrit les 60 millions dans son livre de compte immédiatement. au lieu de spécifier que bah, elle n'avait touché qu'une toute petite partie du transfert, environ 10 millions, ça veut dire que...
Ça fait apparaître des plus-values ?
Ça fait apparaître 40, une quarantaine de millions d'euros en plus qu'en réalité le club n'a pas touché, mais qui apparaît dans les livres de compte. Et en fait, ce qui est reproché à la Juve, c'est d'avoir systématisé un peu cette manière de faire avec des transferts. On parle de celui-là de...
Oui, parce que ce n'est pas le seul transfert qui ait donné lieu à ce type d'acrobatie comptable.
Non, exactement. Il y a eu beaucoup de transferts et notamment de très jeunes joueurs. Par exemple, il y a eu le transfert de Marley Hackey, qui est un joueur qui évoluait en réserve à l'Olympique de Marseille, qui a fait quelques matchs en professionnel, qui est arrivé pour 8 millions d'euros en échange d'un autre joueur, Franco Tonga, qui avait fait chemin inverse pour exactement le même prix, environ 8 millions d'euros. Et c'était plus discret parce que ces joueurs-là étaient moins médiatisés, donc on regardait un petit peu moins les transferts et les sommes étaient moins importantes. Mais la Juve inscrivait, malgré tout, dans ses livres de compte, des transferts sur lesquels elle n'avait pas encore touché d'argent, qui étaient des transferts réels, mais pour lesquels elle n'avait pas encore été payée.
On va redonner la parole à Blaise dans un instant, mais il faut quand même préciser que la Juventus n'a pas été le seul club à faire appel à ses plus-values artificielles.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Le football italien est un petit peu gangréné par ce système-là. La Juventus, d'ailleurs, avait obtenu un acquittement sur cette question-là en première et deuxième instance, tout comme 10 autres clubs, parmi lesquels il y avait quand même la Sampdoria, Parme, Empoli, donc des clubs de Serie A. Mais c'est aussi là que l'affaire se complique, parce qu'après ce verdict édicté par la justice sportive italienne, la justice ordinaire, on va dire, a diligenté une enquête, s'est rendu compte à travers des écoutes téléphoniques, des perquisitions, qu'il y avait peut-être autre chose à aller chercher, et a soumis le dossier à la justice sportive italienne, qui a effectivement donné lieu à ce nouveau procès et à cette sanction prononcée contre la Juve.
Blaise, votre deuxième question.
Bien, alors, à cause des sanctions, la Juve voit la Ligue des Champions s'éloigner, alors que le club a besoin de ses revenus. Alors, est-ce que le club va devoir se séparer de certains joueurs trop coûteux pour alléger les dépenses ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Antoine Grenier, il faut préciser que la Juventus a annoncé un recours auprès du Conseil de garantie du Comité olympique italien, donc le CONI, qui peut soit confirmer, soit annuler la sanction. Si la sanction est confirmée, que se passe-t-il financièrement pour la Juve ?
Là, on est proche de la catastrophe parce qu'il y a énormément de rentrées d'argent pour les compétitions européennes. Quand elle est arrivée en finale de la Ligue des Champions en 2016-2017, la Juve elle a touché plus d'une centaine de millions d'euros. C'est d'ailleurs, dans mon souvenir, la dernière fois qu'elle a été bénéficiaire. Dans cette situation, dans la situation comptable de la Juve, la Ligue des Champions et les compétitions européennes, c'est vital. Et ça, au sens propre. Donc, au plan sportif, oui, certains joueurs pourraient être tentés d'aller voir ailleurs, notamment ceux qui y réfléchissaient, comme Adrien Rabiot, qui arrive en fin de contrat et qui négociait, qui pourrait changer d'avis. 7 millions d'euros par an, quand même, Adrien Rabiot, donc ça pourrait soulager la trésorerie. La Juve pourrait aussi ne pas lever d'options d'achat, comme celle qu'elle a sur Arkadiusz Milik, le Polonais, ou même vendre. Il y a un joueur, notamment l'attaquant Federico Chiesa, qui est champion d'Europe avec l'Italie, qui vaut à peu près 60 millions d'euros. La Juve pourrait être obligée, forcée de se séparer de ses biens de famille, comme on dit.
À suivre donc, le feuilleton est loin d'être terminé.
Ah oui, très très loin d'être terminé, parce que tout dépendra de la décision du comité olympique italien.
Blaise, on a pris le temps de vous répondre, mais voilà, c'était compliqué, je peux vous dire qu'Antoine Grenier s'est plongé ce matin. Il est journaliste, mais en même temps, il a dû faire des études de gestion pour pouvoir nous décrypter le plus simplement possible cette affaire bien compliquée. Blaise, vous avez tout compris ?
Vraiment, j'ai compris beaucoup de choses quand même.
Oui.
Mais c'est quand même édifiant. Merci beaucoup et excellente journée à vous.
Merci, excellente journée à Boisflay en Côte d'Ivoire. À bientôt, Antoine Grenier. Bientôt 8h30 en temps universel. On va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, vous réagirez à cette décision des autorités du Burkina Faso de mettre fin à l'accord qui permet aux soldats français d'être présents dans le pays. D'ailleurs, Ouagadougou donne un mois à la France pour organiser le départ des 400 soldats des forces spéciales. Vos réactions, vos commentaires, un seul numéro, notez-le si vous ne le connaissez pas. 33 9 693 693 70. Toute l'équipe vous attend au standard. Et moi, je regarde attentivement vos réactions sur la page Facebook de l'émission. A tout de suite.